Clovis Cornillac, bonjour. Donc, heureux de vous retrouver. Ici, c'est pour la sortie des Têtes Givrées qui sort en Belgique le 15 mars. Film comédie de Stéphane Cazès. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Un des thèmes abordés dans le film, c'est le réchauffement climatique et notamment la fonte des glaces. Certains diront, comme on ne peut pas skier sur des cailloux, il faut s'adapter. D'autres, par contre, vont essayer d'empêcher cette destruction. C'est un peu votre cas dans le film, Alain.
Oui, dans l'histoire qu'a écrit Stéphane, c'est un personnage qui vit à la montagne, qui est un vrai montagnard, pour le coup, qui était probablement dans une vie, enfin pas probablement, qui était dans une vie antérieure plutôt entraîneur de ski, et qui va se retrouver prof. Parce qu'on manque aussi dans l'éducation nationale en France de professeurs régulièrement.
Un peu le cas partout.
et il va se retrouver à la tête d'une classe qu'on appelle le SECPA, donc d'enfants, on va dire.
Difficulté d'apprentissage.
Voilà. Ouais. Et donc qui ont un manque de confiance en eux, qui sont dans la spirale de l'échec, c'est-à-dire de l'éducation nationale leur dit que de toute façon ils ont pas le niveau, que les autres classes les prennent pour des débiles, enfin voilà, donc ils sont dans une sorte de spirale comme ça, et lui, le personnage d'Alain, est aussi dans une spirale un peu négative pour des raisons qu'on découvrira dans le film, et en fait il va par aussi un mode d'éducation particulier. Qui est un mode d'éducation qui existe en France, puisque Stéphane s'en est inspiré d'un professeur qui s'appelle Vincent Fayet, et que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour préparer le film, qui est un type formidable, et qui casse la manière de communiquer et d'enseigner, où il ne se met pas en scène face à des élèves silencieux qui le regardent et qui l'écoutent, mais il pète la structure de la classe pour que, justement, les enfants s'investissent, prennent des responsabilités et des désirs, et cette fameuse chose de dire essayer de croire en ses rêves, quoi. Là-dedans va s'inscrire un projet de classe qui est lié au réchauffement, puisque les glaciers aujourd'hui fondent à vitesse grand V.
J'ai appris que 90% donc des glaciers alpins auront disparu en 2100. C'est demain, ça.
Mais ça, c'est si on fait rien. Et les glaciologues avec qui on travaille nous disent qu'on peut encore sauver 30 à 50% des glaciers du monde si on s'y met tous et qu'on arrive à changer notre modèle de société. Donc moi, ça me suffit pour me dire que voilà, il faut y aller.
Il faut y aller. On en parlait tout à l'heure. Vous avez tourné en 2017 Belle et Sébastien 3, donc le dernier chapitre dans Haute-Maurienne, Hautes-Alpes, dans le Jura. Est-ce qu'à l'époque, les habitants de ces régions étaient déjà concernés par ces problèmes de réchauffement ?
Alors, je dirais que sur ce tournage-ci, c'était en plein hiver, on avait beaucoup de neige. Donc, on n'était pas tellement dans cette problématique. Mais en revanche, ce que j'ai vérifié et ce qui m'a vraiment frappé, c'est que j'avais tourné un film il y a une vingtaine d'années, en fait, qui s'appelait Malabar Princesse, et où on tournait à Chamonix, sur la mer de glace. Et pour le coup, en revenant 20 ans après, je n'ai pas reconnu le glacier. Et c'est pour le coup, c'est quelque chose de... Alors là, il ne s'agit pas d'être politique ou d'être intellectuel, c'est organique. C'est-à-dire que tu te dis, cette immensité, cette puissance qui se dégage d'un glacier, quand tu le vois avoir perdu autant en si peu de temps, voilà, tu peux faire que le constat de dire qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on soit convaincu, pas convaincu, c'est un fait. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je l'ai appréhendé physiquement. La vitesse de fonte est folle. Donc voilà, nous racontons pas d'histoire. On est déjà sur la Seconde Guerre mondiale, on est dans le déni absolu des histoires de chacun. Là, il faut arrêter de faire du déni, quoi. C'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est, oui, ça fond, oui, ça se réchauffe.
Il faut faire quelque chose, comme dit Stéphane.
Ce que je trouve remarquable dans la démarche de Stéphane et dans son attitude réelle, profonde, et moi j'ai un peu cet aspect-là, profondément, je suis un optimiste. Et pas un optimiste béat, mais un optimiste parce que je me dis, si l'idée, c'est de dire tout est foutu, c'est le nihilisme, c'est on s'en branle de nos enfants, on n'est plus dans un... Et je ne crois pas, je crois vraiment qu'effectivement, l'humanité, comme toutes les espèces, ont un instinct de survie et qu'on a un cerveau, une intelligence qui fait qu'à un moment ou à un autre, on va sortir les doigts de la prise en disant « Ah oui, c'est vrai que ça fait de l'électricité, ça fait mal, donc il va falloir qu'on réagisse ». Petit à petit, la question, nous, les gestes qu'on fait ou dans nos vies, dans notre quotidien, on peut se foutre de notre gueule. Il n'empêche que quand tu les fais, petit à petit, tu te dis, je ne suis pas un exemple, mais le peu que je fais, c'est des choses que je ne faisais pas. Déjà, je ne les faisais pas, donc ça fait mine de rien. Les vélos, les trucs comme ça, enfin, tout ce qu'on peut faire, et Stéphane nous en parlera, parce que le tournage est aussi dans sa fabrication.
Éco-responsable, finalement. Alors, un autre thème, c'est celui qu'il faut croire à ses rêves, mais ce n'est pas toujours évident. Alors, un des enfants, je dis, tout est une question de volonté. Ils se sont battus comme des fous pour atteindre leur rêve. Mais par contre, nous avons Thibaut, qui est interprété par Matteo Salamone, qui dit à Alain, tu leur montes la tête, tu leur fais croire à des rêves impossibles. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident, quand même, ça.
Pour moi, c'est très, très important d'essayer de réaliser ses rêves. Déjà, la meilleure manière de ne pas y arriver, là, on est sûr à tous les coups, c'est de ne pas tenter. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, énormément de gens qui sont dans cette démarche, qui n'osent pas tenter, en fait. Et moi, je pense que c'est important de tenter. Si on y arrive ou si on n'y arrive pas, c'est autre chose. Mais si on essaye de réaliser ses rêves, au moins tous les matins, quand on se réveille, on a de l'énergie, on est content, on s'épanouit, on avance. Et donc, ça, c'est très important pour moi. En plus, parfois, quand on réalise ses rêves, on s'aperçoit que ce n'était pas si bien que ça. Donc, c'est une autre question. Mais au moins, on avance. Et aussi, quelque chose que je trouve très fort quand on se lève tous les matins pour essayer de réaliser ses rêves, c'est que dans son entourage, y a beaucoup de gens qui se disent « Mais en fait, c'est sympa d'être dans cette démarche. » Et puis qui se mettent petit à petit à faire la même chose. Et donc, d'essayer en se changeant soi-même, en fait, ça fait changer les autres. Voilà, c'est ça.
En parlant de Matteo, que je trouve excellent, et fatalement en tant que Belge, un peu chauvin, j'en conviens. Finalement, il y a un peu de belgitude, puisque le film est coproduit par Unimedia. Il y a Wally Mange qui a cofinancé.
Il y a Louis Durand aussi, qui est dans l'équipe.
Je voulais demander comment Matteo est arrivé dans le projet.
Alors, dans le casting, c'était pendant le confinement. Et la première étape du casting, c'était de faire une vidéo. Il y avait deux vidéos. La première, il fallait que ces jeunes s'imaginent à 40 ans, le jour de leurs 40 ans. Et ils ont complètement raté leur vie. Et la deuxième, le jour de leurs 40 ans, ils ont réalisé leurs rêves les plus fous. Et ils ont fait plein de vidéos. Et je me rappelle, j'étais mort de rire quand j'ai vu les vidéos de Matteo. Donc du coup, j'avais envie de le rencontrer tout de suite. Et il m'a bluffé au casting. Il était extraordinaire. Quoi. Pareil pour Louis Durand. Donc du coup, j'ai eu un coup de cœur immédiat pour ces deux comédiens.
Alors, Clovis, on vous a vu récemment dans « Après le silence », qui parle de viol conjugal. Il y a ce combat ici écologique, il y a l'inceste dans les chatouilles, il y a le film de Bouly dont on a déjà parlé qui parle des problèmes cardiaques et de la perte de mémoire. Il y a des sujets, des combats qui vous touchent plus particulièrement que d'autres
Non, je crois que tout ce qui est humain m'intéresse en vrai. Après, c'est les projets et les gens. C'est-à-dire que je partirai jamais sur un film ou une pièce ou quelque chose qui aurait une thématique et où les personnes qui le font ne m'intéressent pas. En revanche, je peux partir sur des projets peut-être plus bancals, mais parce que humainement, je me dis, ils veulent raconter quelque chose à travers ça. Donc, non, je crois que c'est le cinéma, de fait, et le reflet de la société. Donc toutes ces thématiques là, par exemple, que vous avez citées, elles sont le quotidien de beaucoup de gens, ce qui fait que ça inspire des cinéastes et du coup on se dit tiens, il va sur des thématiques, c'est des thématiques qui m'intéressent, l'humanité m'intéresse, l'humain m'intéresse, ça c'est évident. Mais même dans son côté spectaculaire, même dans les films, moi quand je fais Couleur de l'incendie, Pour moi, les thématiques qui sont dans Couleur de l'incendie, bah, il y a effectivement l'inceste, il y a effectivement, enfin pas plus que l'inceste, je veux dire le viol de gamin, il y a la trahison, il y a l'affairisme, il y a la vengeance, il y a...
Ah, chez le maître, il y a tout. Là.
Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Qu'est-ce qui nous intéresse dans la littérature, dans le cinéma, dans tout ça, c'est que ça parle de nous. Mm-hmm. C'est que ça... Donc, effectivement, ces thématiques-là, elles sont... Il y a un enjeu qui me parle.
Alors, en tant que jeune papa, puisque, bon, vous avez les jumelles qui ont 22 ans, les Alice, Nino en a 9, est-ce que vous sentez un peu investi d'une certaine mission pour la sauvegarde de leur planète ?
Pour être sincère, j'ai un peu honte. Je me sens pas très à l'aise avec... c'est-à-dire, moi, je suis j'ai 54 ans... Je me dis, ma génération, on avait des gens qui nous disaient des choses depuis longtemps. Et tout ça a été pris un peu... Alors, c'est aussi de leur faute, parce qu'ils se tiraient dans les pattes les uns les autres. Je parle notamment de mouvements écologiques. Mais qui, entre eux, déjà, c'était plus une forme politique et tout ça. Et ça a été pris pendant des années pour des charlots. Et franchement, ils ont été regardés par les autres politiques, par les citoyens, par tout ça, en grande majorité comme des charlots. Et j'ai les boules parce que non. Parce que, en vrai, bon, il n'y a plus le temps des regrets. Hein. Maintenant, il faut agir. Donc la question... Mais j'ai un peu honte de pas avoir vu plus, quoi. De pas avoir...
conscientisé.
Je pense que sans être délirant, je pense que depuis 20 ans, ce qu'il faut faire aujourd'hui, on aurait dû le faire il y a déjà 20 ans de manière assez cohérente. C'est-à-dire, et quand tu as des gamins et tout ça, tu te sens pas fier parce que tu leur laisses quand même un truc qui est pas top, quoi. Et que nous, on a surconsommé, surpollué, et de manière en disant « Oui, le plastique, c'est pas bon, mais bon, c'est le plastique, tu l'as, et puis tu le machin. » Enfin, tout était « Oui, ça va, couper l'eau. » Tout ça était un peu ringard, quoi. C'est fou. Alors que c'est l'essence même de toutes ces choses-là, qui font que on n'y arrivera pas autrement. Si on ne commence pas par toutes ces petites choses que nous, on peut maîtriser à notre quotidien, sans devenir des ayatollahs parce que dès que tu parles... Il y a encore cette chose-là. Moi, je sais que, par exemple, c'est vrai que moi, je me déplace en vélo, c'est vrai que j'ai plein de potes, plein de gens que je connais qui disent « Ah, ils nous font chier avec leur vélo, on peut plus rouler. » Ah oui, évidemment, quand t'es jeune et tout, non, mais je te jure, le vélo, tu peux le faire tard, tu peux le faire doucement, tu peux... Mais il y a une sorte de la culpabilité de ce qu'on a fait génère aussi une forme de déni, de colère. Et que bizarrement, si tu dis, en France, je ne prends plus l'avion. Ça fait 5 ans, je ne prends plus l'avion en France, je me débrouille je me dis, c'est un petit pays, franchement, je ne fais pas un effort surhumain à ne pas prendre l'avion. Ce n'est pas grand-chose. Et quand de temps en temps, je le dis, on dit, bien sûr, ouais, mais bon, tu as un téléphone portable. Tu fais, j'ai un téléphone. Tu sais combien ça consomme. Et alors tu fais, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Au moins, je n'ai pas l'avion. Donc, c'est toujours ça. Je ne dis pas que je suis un exemple, je ne suis pas un exemple, mais systématiquement, tu te rends compte que chaque petite chose que tu peux dire, c'est comme si tu agressais les gens, simplement parce que tu dis, je te jure que ce n'est pas compliqué à faire, et que c'est... on est encore dans quelque chose de la culpabilité, du déni, alors que, franchement, si, je ne me sens pas à donner des leçons à personne, juste... Quand tu as une conversation, on est en train de bouffer ou n'importe quoi, tu échanges, quoi. Je ne sais pas vous, mais pratiquement à chaque dîner, tu as une ou deux personnes qui font « Ah, ça va, d'accord, et ok. Ouais, bien sûr, on va boire de l'eau, qui machin, très bien. » Comme si, et tu fais « Mais je t'agresse pas du tout en disant ça. Si tu veux continuer à prendre du plastique, je veux pas t'empêcher. Enfin, c'est pas le propos. C'est juste que c'est bien de l'entendre, quoi, quand même, de se dire « Je te jure. » Et peut-être que dans l'intimité, tu vois, moi, je vois avec le truc d'énergie, là, concrètement, on nous dit d'éteindre, de machin, il va y avoir des coupures avec ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Eh bien, franchement, j'éteins plus qu'il y a encore 3 mois. Et il y a quelque chose qui rentre. Et maintenant, ça m'agresse, en fait, quand c'est allumé et que j'y suis pas. Et c'est fou, ça m'agressait pas du tout. Moi, je pouvais allumer chez moi parce que, bon, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est assez grand. Et j'aime bien arriver, pas dans le noir, quoi. À chaque fois, tu vois, quand il fait pas beau. D'éteindre, ça y est, je sens que c'est un truc. Alors, tu vois, les années qu'il faut pour... mais il n'empêche que c'est des démarches, quoi.
Oui, pour moi, c'est très important aussi que le film enfin, va dans cette démarche-là. Il n'est pas du tout moralisateur, c'est pas du tout... Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on se mette en mouvement. Après, on ne peut pas être parfait, on peut pas, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est impossible d'avoir des vies neutres en carbone comme ça. Mais l'important, c'est de se mettre dans cette démarche. Et plus on sera nombreux à se mettre dans cette démarche, plus on va pouvoir aller loin. Et la morale du film, elle est là-dedans, quoi. C'est que si on faisait tous comme les personnages de ce film, on arriverait à faire cette transition et à sauver des glaciers.
Clovis, Stéphane, un grand merci. On rappelle Les Têtes Givrées qui sort en Belgique le 15 mars. Merci.
Merci.
Merci.